Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué.
Grand-mère Rosot n'est pas là ? Non, dit Bertille, elle est partie très tôt ce matin. À Lompon, chez votre oncle Fred.
Le bon Dieu est absent. On devrait rendre un décret pour forcer Dieu à résidence. Il est à sa maison de campagne et ne s'occupe pas de nous. Aussi, tout va de guingois.
Et il prit l'air d'une jolie brunette, plus gentille que les amours. De belles petites joues roses comme une pêche. Un nez retroussé mignon, mignon. Si la nature pense, les paysages sont les expressions de ses idées.
De la littérature, de la musique, c'est Lyrix, sur Radio U 101.1.
Bonsoir et bienvenue dans Lyrix. Au menu de cette émission, nous allons poursuivre la lecture de la nouvelle d'Émile Zola, La mort d'Olivier Bécaille. Voici la deuxième partie. Les heures passaient. Madame Gabin avait apporté son déjeuner. Marguerite refusait toute nourriture. Puis, l'après-midi s'écoula. Par la fenêtre laissée ouverte, montaient les bruits de la rue Dauphine. À un léger tintement du cuivre du chandelier sur le marbre de la table de nuit, il me sembla qu'on venait de changer la bougie. Enfin, Simoneau reparut. « Eh bien ?» lui demanda à demi-voix la vieille femme. « Tout est réglé, » répondit-il. « Le convoi est pour demain 11 heures. Ne vous inquiétez de rien et ne parlez pas de ces choses devant cette pauvre femme. » Madame Gabin reprit quand même. « Le médecin des morts n'est pas encore venu. » Simoneau alla s'asseoir près de Marguerite, l'encouragea et se tut. Le convoi était pour le lendemain 11 heures. Cette parole retentissait dans mon crâne comme un glas. Et ce médecin qui ne venait point, ce médecin des morts, comme le nommait Madame Gabin, lui verrait bien tout de suite que j'étais simplement en léthargie. Il ferait le nécessaire, il saurait m'éveiller. Je l'attendais dans une impatience affreuse. Cependant, la journée s'écoula. Madame Gabin, pour ne pas perdre son temps, avait fini par apporter ses abat-jours. Même, après en avoir demandé la permission à Marguerite, elle fit venir Dédé, parce que, disait-elle, elle n'aimait guère laisser les enfants longtemps seuls. « Allons, entre » murmura-t-elle en amenant la petite. « Et ne fais pas la bête, ne regarde pas de ce côté, ou tu auras affaire à moi. » Elle lui défendait de me regarder. Elle trouvait cela plus convenable. Dédé sûrement glissait des coups d'œil de temps à autre, car j'entendais sa mère lui allonger des claques sur les bras. Elle lui répétait furieusement « Travaille ou je te fais sortir, et cette nuit, le monsieur ira te tirer les pieds. » Toutes deux, la mère et la fille, s'étaient installées devant notre table. Le bruit de leurs ciseaux découpant les abat-jours me parvenait distinctement. Ceux-là, très délicats, demandaient sans doute un découpage compliqué, car elles n'allaient pas vite. Je les comptais un à un pour combattre mon angoisse croissante. Et, dans la chambre, il n'y avait que le petit bruit des ciseaux. Marguerite, vaincue par la fatigue, devait s'être assoupie. À deux reprises, Simoneau se leva. L'idée abominable qu'il profitait du sommeil de Marguerite pour effleurer des lèvres ses cheveux me torturait. Je ne connaissais pas cet homme, et je sentais qu'il aimait ma femme. Un rire de la petite Dédé acheva de m'irriter.
« Pourquoi ris-tu, imbécile ?» lui demanda sa mère. « Je vais te mettre sur le carré. Voyons, réponds, qu'est-ce qui te fait rire ?»
L'enfant balbutiait. Elle n'avait pas ri, elle avait toussé. Moi, je m'imaginais qu'elle devait avoir vu Simoneau se pencher vers Marguerite et que cela lui paraissait drôle. La lampe était allumée lorsqu'on frappa. « Ah, voici le médecin !» dit la vieille femme. C'était le médecin, en effet. Il ne s'excusa même pas de venir si tard. Sans doute, il avait eu bien des étages à monter dans la journée. Comme la lampe éclairait très faiblement la chambre, il demanda « Le corps est ici ?»«
Oui, monsieur, » répondit Simoneau.
Marguerite s'était levée, frissonnante. Madame Gabin avait mis Dédé sur le palier parce qu'un enfant, ça n'a pas besoin d'assister à ça. Et elle s'efforçait d'entraîner ma femme vers la fenêtre afin de lui épargner un tel spectacle. Pourtant, le médecin venait de s'approcher d'un pas rapide.
Je le devinais fatigué, pressé, impatienté. M'avait-il touché la main? Avait-il posé la sienne sur mon cœur? Je ne saurais le dire. « Voulez-vous que je prenne la lampe pour vous éclairer ?» offrit Simoneau avec obligeance. « Non, inutile, » dit le médecin tranquillement. « Comment ? Inutile ? Cet homme avait ma vie entre les mains et il jugeait inutile de procéder à un examen attentif. Mais je n'étais pas mort. J'aurais voulu crier que je n'étais pas mort. »«
À quelle heure est-il mort ? » reprit-il.
« À 6 heures du matin, » répondit Simoneau. Une furieuse révolte montait en moi, dans les liens terribles qui me liaient. Oh, ne pouvoir parler, ne pouvoir remuer un membre! Le médecin ajouta. Ce temps lourd est mauvais. Rien n'est fatigant comme ces premières journées de printemps. Et il s'éloigna. C'était ma vie qui s'en allait. Des cris, des larmes, des injures m'étouffaient, déchiraient ma gorge convulsée où ne passait plus un souffle. Ah, le misérable dont l'habitude professionnelle avait fait une machine et qui venait au lit des morts avec l'idée d'une simple formalité à remplir. Il ne savait donc rien, cet homme. Toute sa science était donc menteuse, puisqu'il ne pouvait d'un coup d'œil distinguer la vie de la mort. Et il s'en allait, il s'en allait.
« Bonsoir, monsieur, » dit Simoneau.
Il y eut un silence. Le médecin devait s'incliner devant Marguerite, qui était revenue, pendant que Madame Gabin fermait la fenêtre. Puis, il sortit de la chambre, j'entendis ses pas qui descendaient dans l'escalier. « Allons, c'était fini. » J'étais condamné. Mon dernier espoir disparaissait avec cet homme. Si je ne m'éveillais pas avant le lendemain 11 heures, on m'enterrait vivant. Et cette pensée était si effroyable que je perdis conscience de ce qui m'entourait. Ce fut comme un évanouissement dans la mort elle-même. Le dernier bruit qui me frappa fut le petit bruit des ciseaux de Madame Gabin et de Dédé. La veillée funèbre commençait. Personne ne parlait plus. Marguerite avait refusé de dormir dans la chambre de la voisine. Elle était là, couchée à demi au fond du fauteuil, avec son beau visage pâle, ses yeux clos dont les cils restaient trempés de larmes. Tandis que, silencieux dans l'ombre, assis devant elle, Simoneau la regardait.
De la littérature, de la musique, c'est Lyrics sur Radio U 101.fm.
je ne puis dire quelle fut mon agonie pendant la matinée du lendemain. Cela m'est demeuré comme un rêve horrible où mes sensations étaient si singulières, si troublées, qu'il me serait difficile de les noter exactement. Ce qui rendit ma torture affreuse, c'est que j'espérais toujours un brusque réveil. Et, à mesure que l'heure du convoi approchait, l'épouvante m'étranglait davantage. Ce fut vers le matin seulement que j'eus de nouveau conscience des personnes et des choses qui m'entouraient. Un grincement de l'espagnolette me tira de ma somnolence. Madame Gabin avait ouvert la fenêtre. Il devait être environ 7 heures, car j'entendais les cris de marchands dans la rue, la voix grêle d'une gamine qui vendait du mouron, une autre voix enrouée criant des carottes. Ce réveil bruyant de Paris me calma d'abord. Il me semblait impossible qu'on m'enfouît dans la terre au milieu de toute cette vie. Un souvenir achevait de me rassurer. Je me rappelais avoir vu un cas pareil au mien lorsque j'étais employé à l'hôpital de Guérande. Un homme y avait ainsi dormi pendant 28 heures. Son sommeil était même si profond que les médecins hésitaient à se prononcer. Puis, cet homme s'était assis sur son séant et il avait pu se lever tout de suite. Moi, il y avait déjà 25 heures que je dormais. Si je m'éveillais vers 10 heures, il serait temps encore. Je tâchais de me rendre compte des personnes qui se trouvaient dans la chambre et de ce qu'on y faisait. La petite Dédé devait jouer sur le carré, car la porte s'étant ouverte, un rire d'enfant vint du dehors. Sans doute, Simono n'était plus là. Aucun bruit ne me révélait sa présence. Les savates de Madame Gabin traînaient seules sur le carreau. On parla enfin. « Ma chère, dit la vieille, vous avez tort de ne pas en prendre pendant qu'il est chaud. Ça vous soutiendrait. » Elle s'adressait à Marguerite, et le léger égouttement du filtre sur la cheminée m'apprit qu'elle était en train de faire du café. « Ce n'est pas pour dire, continua-t-elle, mais j'avais besoin de ça. À mon âge, ça ne vaut rien de veiller. Et c'est si triste, la nuit, quand il y a un malheur dans une maison. Prenez donc du café, ma chère, une larme seulement. » Et elle força Marguerite à en boire une tasse. « Hein, c'est chaud, ça vous remet. Il vous faut des forces pour aller jusqu'au bout de la journée. Maintenant, si vous étiez bien sage, vous passeriez dans ma chambre et vous attendriez là. » « Non, je veux rester, » répondit Marguerite résolument. Sa voix, que je n'avais plus entendue depuis la veille, me toucha beaucoup. Elle était changée, brisée de douleur. « Ah, chère femme, je la sentais près de moi comme une consolation dernière. Je savais qu'elle ne me quittait pas des yeux, qu'elle me pleurait de toutes les larmes de son cœur. » Mais les minutes passaient. Il y eut à la porte un bruit que je ne m'expliquais pas d'abord. On aurait dit l'emménagement d'un meuble qui se heurtait contre les murs de l'escalier trop étroit. Puis, je compris, en entendant de nouveau les larmes de Marguerite, c'était la bière. « Vous venez trop tôt, » dit Madame Gabin d'un air de mauvaise humeur. « Posez ça derrière le lit. » Quelle heure était-il donc? 9 heures, peut-être. Ainsi, cette bière était déjà là, et je la voyais dans la nuit épaisse, toute neuve, avec ses planches à peine rabotées. Mon Dieu! Est-ce que tout allait finir? Est-ce qu'on m'emporterait dans cette boîte que je sentais à mes pieds? J'eus pourtant une suprême joie. Marguerite, malgré sa faiblesse, voulut me donner les derniers soins. Ce fut elle qui, aidée de la vieille femme, m'habilla avec une tendresse de sœur et d'épouse. Je sentais que j'étais une fois encore entre ses bras à chaque vêtement qu'elle me passait. Elle s'arrêtait, succombant sous l'émotion. Elle m'étreignait, elle me baignait de ses pleurs. J'aurais voulu pouvoir lui rendre son étreinte en lui criant « Je vis !» Et je restais impuissant. Je devais m'abandonner comme une masse inerte. Vous avez tort. Tout ça est perdu, répondait Madame Gabin. Marguerite répondait de sa voix entrecoupée. Laissez-moi, je veux lui mettre ce que nous avons de plus beau. Je compris qu'elle m'habillait comme pour le jour de nos noces. J'avais encore ces vêtements dont je comptais ne me servir à Paris que dans les grands jours. Puis, elle retomba dans le fauteuil, épuisée par l'effort qu'elle venait de faire. Alors, tout d'un coup, Simono parla. Sans doute, il venait d'entrer. « Ils sont en bas, » murmura-t-il. « Bon, ce n'est pas trop tôt, » répondit Madame Gabin en baissant également la voix. « Dites-leur de monter, il faut en finir. »« C'est que j'ai peur du désespoir de cette pauvre femme. »
La vieille parut réfléchir. Elle reprit. « Écoutez, monsieur Simoneau, vous allez l'emmener de force dans ma chambre. Je ne veux pas qu'elle reste ici. C'est un service à lui rendre. Pendant ce temps, en un tour de main, ce sera bâclé. » Ces paroles me frappèrent au cœur. Et que devins-je lorsque j'entendis la lutte affreuse qui s'engagea ? Simoneau s'était approché de Marguerite en la suppliant de ne pas demeurer dans la pièce. « Par pitié, implorait-il, venez avec moi, épargnez-vous une douleur inutile. » « Non, non, répondait ma femme, je resterai, je veux rester jusqu'au dernier moment. Songez donc que je n'ai que lui au monde et que, lorsqu'il ne sera plus là, je serai seule. » Cependant, près du lit, Madame Gabin soufflait à l'oreille du jeune homme. « Marchez donc, empoignez-la, emportez-la dans vos bras. » Est-ce que ce Simoneau allait prendre Marguerite et l'emporter ainsi ? Tout de suite, elle cria. D'un élan furieux, je voulus me mettre debout. Mais les ressorts de ma chair étaient brisés, et je restais si rigide que je ne pouvais même soulever les paupières pour voir ce qui se passait là, devant moi. La lutte se prolongeait. Ma femme s'accrochait au meuble en répétant « Oh, de grâce, monsieur, lâchez-moi, je ne veux pas !» Il avait dû la saisir dans ses bras vigoureux, car elle ne poussait plus que des plaintes d'enfant. Il l'emporta, les sanglots se perdirent, et je m'imaginais les voir, lui grand et solide, l'emmenant sur sa poitrine, à son cou, et elle, éplorée, brisée, s'abandonnant, le suivant désormais partout où il voudrait la conduire. « Fichtre, ça n'a pas été sans peine !» murmura Madame Gabin. « Allons, houp, maintenant que le plancher est débarrassé !» Dans la colère jalouse qui m'affolait, je regardais cet enlèvement comme un rapt abominable. Je ne voyais plus Marguerite depuis la veille, mais je l'entendais encore. Maintenant, c'était fini. On venait de me la prendre. Un homme l'avait ravie avant même que je fusse dans la terre. Et il était avec elle, derrière la cloison, seul à la consoler, à l'embrasser peut-être.
De la littérature, de la musique, c'est Lyrix sur Radio U 101.fm. This world were mine, I would place at your feet all that I own. You've been so good to me. If this world were mine, I'd give you the flowers, the birds and the bees. For with your love inside me, that would be all I need. If this world were mine, I'd give you
this world were mine, I'd make you a king. With wealth untold, you could have anything. If this world were mine, I'd give you each day so sunny and blue. If you wanted the moonlight, I'd give you that too. If this world were mine, I'd give you anything.
Oh, baby, you're my consolation, and there's no hesitation when you want me. Honey, just call me.
And oh, 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 you're my inspiration. Squeeze me. Oh, 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 oh.
Every sky would be blue, long as you're loving me. Oh, 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 oh.
With you here in my arms, life is so wonderful.
Oh, 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 oh. Give me plenty loving, baby. Give me plenty loving, honey. Keep on loving me.
La porte s'était ouverte de nouveau. Des pas lourds marchaient dans la pièce. Dépêchons, répétait Madame Gabin. Cette petite dame n'aurait qu'à revenir. Elle parlait à des gens inconnus
et qui ne lui répondait que par des grognements. « Moi, vous comprenez, je ne suis pas une parente, je ne suis qu'une voisine. Je n'ai rien à gagner dans tout ça. C'est par pure bonté de cœur que je m'occupe de leurs affaires. Et ce n'est déjà pas si gai. Oui, oui, j'ai passé la nuit. Même qu'il ne faisait guère chaud vers 4 heures. Enfin, j'ai toujours été bête, je suis trop bonne. » À ce moment, on tira la bière au milieu de la chambre et je compris. Allons, j'étais condamné puisque le réveil ne venait pas. Mes idées perdaient de leur netteté, tout roulait en moi dans une fumée noire. Et j'éprouvais une telle lassitude que ce fut comme un soulagement de ne plus compter sur rien. On n'a pas épargné le bois, dit la voix enrouée d'un croque-mort. La boîte est trop longue. Eh bien, il y sera à l'aise, ajouta un autre en s'égayant. Je n'étais pas lourd et ils s'en félicitaient, car ils avaient 3 étages à descendre. Comme ils m'empoignaient par les épaules et par les pieds, Madame Gabin, tout d'un coup, se fâcha. « Sacrée gamine » cria-t-elle. « Il faut qu'elle mette son nez partout. Attends, je vais te faire regarder par les fentes. » C'était Dédé qui entrebâillait la porte et passait sa tête ébouriffée. Elle voulait voir mettre le monsieur dans la boîte. 2 claques vigoureuses retentirent, suivies d'une explosion de sanglots. Et quand la mère fut rentrée, elle causa de sa fille avec les hommes qui m'arrangeaient dans la bière. Elle a 10 ans. C'est un bon sujet, mais elle est curieuse. Je ne la bats pas tous les jours. Seulement, il faut qu'elle obéisse. « Oh, vous savez, dit un des hommes, toutes les gamines sont comme ça. Lorsqu'il y a un mort quelque part, elles sont toujours à tourner autour. » J'étais allongé commodément et j'aurais pu croire que je me trouvais encore sur le lit sans une gêne de mon bras gauche qui était un peu serré contre une planche. Ainsi qu'il le disait, je tenais très bien là-dedans grâce à ma petite taille. « Attendez !» s'écria Madame Gabin. « J'ai promis à sa femme de lui mettre un oreiller sous la tête. » Mais les hommes étaient pressés. Ils fourrèrent l'oreiller en me brutalisant. Un d'eux cherchait partout le marteau, avec des jurons. On l'avait oublié en bas, et il fallut descendre. Le couvercle fut posé. Je ressentis un ébranlement de tout mon corps lorsque 2 coups de marteau enfoncèrent le premier clou. C'en était fait. J'avais vécu. Puis, les clous entrèrent un à un, rapidement, tandis que le marteau sonnait en cadence. On aurait dit des emballeurs clouant une boîte de fruits secs avec leur adresse insouciante. Dès lors, les bruits ne m'arrivèrent plus qu'assourdis et prolongés, résonnant d'une étrange manière, comme si le cercueil de sapin s'était transformé en une grande caisse d'harmonie. La dernière parole qui frappa mes oreilles dans cette chambre de la rue Dauphine, ce fut cette phrase de Madame Gabin. « Descendez doucement et méfiez-vous de la rampe au second, elle ne tient plus. On m'emportait. J'avais la sensation d'être roulé dans une mer houleuse. D'ailleurs, à partir de ce moment, mes souvenirs sont très vagues. Je me rappelle pourtant que l'unique préoccupation qui me tenait encore, préoccupation imbécile et comme machinale, était de me rendre compte de la route que nous prenions pour aller au cimetière. Je ne connaissais pas une rue de Paris. J'ignorais la position exacte des grands cimetières, dont on avait parfois prononcé les noms devant moi, et cela ne m'empêchait pas de concentrer les derniers efforts de mon intelligence afin de deviner si nous tournions à droite ou à gauche. Le corbillard me cahotait sur les pavés. Autour de moi, le roulement des voitures, le piétinement des passants faisaient une clameur confuse que développait la sonorité du cercueil. D'abord, je suivis l'itinéraire avec assez de netteté. Puis, il y eut une station, on me promena, et je compris que nous étions à l'église. Mais, quand le corbillard s'ébranla de nouveau, je perdis toute conscience des lieux que nous traversions. Une volée de cloches m'avertit que nous passions près d'une église. Un roulement plus doux et continu me fit croire que nous longions une promenade. J'étais comme un condamné mené au lieu du supplice, hébété, attendant le coup suprême qui ne venait pas. On s'arrêta, on me tira du corbillard. Et ce fut bâclé tout de suite. Les bruits avaient cessé, je sentais que j'étais dans un lieu désert, sous des arbres, avec le large ciel sur ma tête. Sans doute, quelques personnes suivaient le convoi, les locataires de l'hôtel, Simoneau et d'autres, car des chuchotements arrivaient jusqu'à moi. Il y eut une psalmodie, un prêtre balbutiait du latin. On piétina 2 minutes. Puis, brusquement, je sentis que je m'enfonçais, tandis que des cordes frottaient comme des archets contre les angles du cercueil qui rendaient un son de contrebasse fêlé.
C'était la fin. Un choc terrible, pareil au retentissement d'un coup de canon, éclata un peu à gauche de ma tête. Un second choc se produisit à mes pieds. Un autre, plus violent encore, me tomba sur le ventre, si sonore que je crus la bière fendue en deux. Et je m'évanouis.
Même s'il me faut lâcher ta main, sans pouvoir te dire à demain, rien ne défera jamais nos liens. Même s'il me faut aller plus loin, changer de train, l'amour est plus fort que le chagrin, l'amour qui fait battre nos cœurs va sublimer cette douleur, transformer le plomb en or. Tu as tant de belles choses à vivre encore, tu verras au bout du tunnel se dessiner un arc-en-ciel et refleurir les lilas. Tu as tant de belles choses devant toi. Cache le plus grand des mystères, comme la brume voilant l'aurore. Il y a tant de belles choses que tu ignores, la foi qui abat les montagnes, la source blanche dans ton âme. Pense-y quand tu t'endors, l'amour est plus fort. Le plus beau des mystères, pense-y quand tu t'endors, l'amour est plus fort que la mort.
Voilà, Lyrics, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous retrouverons avec plaisir le mois prochain, comme d'habitude, le dernier dimanche de chaque mois, à 20h, sur Radio U. D'ici là, nous vous souhaitons de belles lectures. Sachez que vous pouvez retrouver les podcasts de l'émission sur la page Lyrics de Mixcloud.
De la littérature, de la musique, c'est Lyrics, sur Radio U, 101.1.